Dieu. Mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes. C'est lui qui guérit toutes mes infirmités. C'est lui qui arrache ma vie à la tombe. C'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Avant d'écouter des textes de la Bible, nous prions. Père céleste, tu n'as pas abandonné le monde ni aucun de nous. Alors que nous t'avions délaissé et que nous étions perdus, tu t'es mis à notre recherche et tu nous as retrouvés en Jésus-Christ. En ton Fils bien-aimé, tu nous ouvres aujourd'hui encore un chemin. Nous allons écouter ta parole, que ton Saint-Esprit nous donne de la comprendre, que nous n'ajoutions rien, que nous ne retranchions rien. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais partir du texte qu'on a étudié à l'étude biblique dans Exode 32. Verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple : Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit : Ah ! Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse : C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. C'est après le veau d'or que se situe ce texte. Moïse était redescendu du Sinaï avec les deux tables du témoignage, qu'on appelle les deux tables de la loi. Les dix commandements qui sont le témoignage d'une alliance qui a été scellée entre Dieu et le peuple. Et le jour même où il descend, avec ces deux tables de la loi, il voit qu'ils se sont déjà détournés du Seigneur en faisant un veau en or et en priant devant ce veau. Il a détruit les deux tables du témoignage. L'alliance a été détruite et Moïse va lui-même prier de nouveau 40 jours pour que l'alliance soit renouvelée. Nous voyons que si l'alliance subsiste, c'est parce que Jésus la renouvelle sans cesse. Il y a eu un homme, Jésus, qui est venu renouveler l'alliance pour Israël et pour toutes les nations. Il l'a ouverte à toutes les nations. Et Moïse se sent tellement solidaire de son peuple qu'il le fait même passer avant lui. Il dit : Si tu ne veux pas leur pardonner, efface-moi du livre que tu as écrit. On trouve une profondeur de cet amour pour Israël aussi chez l'apôtre Paul. Dans Romains 9, verset 3, il dit : Oui, je souhaiterais être anathème être moi-même séparé du Christ pour mes frères juifs. Moïse et Paul incarnent ce que Jésus a vécu jusqu'au bout. Il a donné sa vie pour nous, n'a pas fait cas de sa propre vie, tellement nous lui étions à cœur. Et ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est que devant cette prière de Moïse, si tu ne veux pas leur pardonner, efface-moi du livre, de ton livre que tu as écrit, Dieu dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. C'est ça qui m'a frappé dans ce texte, c'est qu'au moment même où Dieu constitue un peuple avec des individus qui n'avaient aucune cohésion sociale entre eux, c'était en Égypte des esclaves, ils n'avaient pas l'habitude de fonctionner ensemble en tant que peuple, d'être structurés comme un peuple uni. Au moment même où Dieu fait de ce ramassis de gens un peuple, où il crée un peuple, il insiste sur le fait que chacun est responsable personnellement devant lui. Nous penserions que si c'est un peuple qui est le peuple de Dieu, eh bien si je suis dedans, je suis sauvé. Et la Bible ne dit pas ça. Elle dit, oui, Dieu fait un peuple, mais à l'intérieur de ce peuple, chacun est personnellement responsable de sa relation avec le Seigneur. Nous avons besoin de connaître cette vérité de plus en plus, parce qu'elle est soulignée d'abord dans la Bible, mais parce que les temps sont mauvais et que chacun ne pourra tenir que s'il veille lui-même personnellement à sa relation avec le Seigneur et ne compte pas sur l'Église pour combler les manques de cette relation. Chacun a une responsabilité personnelle par rapport au Seigneur qui l'aime, au Seigneur qui a un projet pour sa vie. Les prophètes aussi ont des chapitres, même un chapitre entier, en tout cas dans Ézéchiel, et on trouve ça aussi dans Jérémie, mais Ézéchiel le souligne très fortement, parce que, vous voyez, au fil des siècles, les Juifs s'étaient habitués à ce que, bon, ils sont dans le peuple juif, alors ils sont sauvés. Et dans Ézéchiel 18, c'est tout un chapitre consacré à la responsabilité personnelle. Vous voyez, par exemple, dans Ézéchiel 18, le verset 20, « L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera pour lui, sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Voilà, tout le chapitre 18 d'Ézéchiel est consacré à cette responsabilité personnelle qui semble aller à contre-courant d'autres textes bibliques où il est question d'une solidarité générationnelle dans le bien ou dans le mal. Celle dans le bien surpasse largement celle dans le mal, puisqu'elle va seulement jusqu'à 3 générations, mais celle dans le bien va jusqu'à 1000 générations, c'est même dans les 10 commandements, cette solidarité générationnelle où le bien dépasse largement le mal. Mais là, il y a aussi des textes comme ça qui insistent sur la responsabilité personnelle pour chacun de sa relation avec le Seigneur, parce que le Seigneur a en vue un peuple, mais la Bible ajoute toujours en même temps, il a d'abord en vue une personne, Et certes, il fait un peuple, il crée un corps, il crée une famille. Mais on n'est pas sauvé parce qu'on est dans cette famille, on est sauvé parce qu'on a la relation personnelle avec le Seigneur. Et cela sera de plus en plus nécessaire de veiller à cette relation personnelle avec le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. L'Avent, ça veut dire l'avènement, la venue de Jésus. Cette venue, elle est accompagnée d'épreuves. Elle est précédée par des épreuves qui seront sur les pays, sur les peuples, à l'intérieur des familles. Les générations seront, les enfants seront contre les parents contre les enfants. Les pays seront dirigés par des enfants, par des gens complètement irresponsables. Voilà une des choses qui nous est dite dans la Bible. Donc il faudra chacun avoir cet approfondissement de soi-même être avec le Seigneur en relation. Jésus dit pour sa venue dans Luc 17, c'est le texte pour ce dimanche dans la liste lecture de l'Église réformée, Luc 17, verset 34 à 36, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux femmes qui moudront ensemble, ou bien qui tricoteront ensemble, on peut adapter à notre temps, l'une sera prise et l'autre laissée, de deux hommes qui seront dans un champ, on peut adapter aussi, qui seront dans un bureau devant un ordinateur, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc Jésus lui-même insiste sur le fait que chacun doit veiller à sa relation avec le Seigneur. Et c'est vrai aussi au niveau des ministères. Vous voyez dans Jean, au chapitre 21, l'apôtre Pierre reçoit des promesses du Seigneur. Il aurait peut-être préféré d'autres promesses, mais le Seigneur lui a indiqué par quelle mort il glorifierait le Seigneur. Alors Pierre voit un autre disciple, celui que Jésus aimait, et puis il dit au Seigneur, « Et lui ?» Et lui, alors lui, c'est quoi son destin pour toi, que tu as prévu pour lui ? Et Jésus lui dit, c'est dans Jean 21, les versets 21, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Donc Jésus prévoit une vie assez courte pour Pierre, et puis pour le disciple qu'il aime, une vie longue, qui pourrait peut-être même aller jusqu'à sa venue. Mais non, il est mort quand même avant la venue du Seigneur, mais il est mort très âgé, l'autre disciple. Eh bien, il ne s'agit pas de comparer les ministères. Il ne s'agit pas de comparer nos vies à celles d'un autre chrétien, pour se croire juste dans notre relation avec Dieu. Chacun suit. Chacun suit le Seigneur, selon l'appel qu'il a reçu. Ce que Jésus dit, il le dit personnellement à chacun, « Suis-moi ». Alors on pourrait penser, donc en fait on n'a plus besoin d'église, mais nous faisons toujours des simplifications de la parole de Dieu. Ah bon, puisque c'est chacun qui est responsable de sa relation avec Dieu, on n'a pas besoin de l'Église. Ben, c'est faux aussi. Parce que le Seigneur, je l'ai dit dès le début, en même temps qu'il crée un peuple, qu'il crée l'Église, Israël au Sinaï, c'est aussi l'Église. Il crée aussi la responsabilité personnelle. Parce qu'effectivement, le peuple d'Israël a prouvé au cours de son histoire qu'il était complètement déviant, L'Église aussi peut être complètement déviante à la fin des temps. Donc à chacun de veiller à sa relation personnelle avec le Seigneur, sans renier le peuple que le Seigneur a choisi, auquel il est fidèle. Car Dieu est fidèle, même quand l'Église est infidèle. Il jugera l'Église justement parce qu'il l'aime. Il aime le monde aussi, mais l'Église sera jugée avant le monde. Parce que c'est là où le Seigneur aime qu'il fait du ménage. C'est ce qui lui est précieux qui purifie en premier. Donc la responsabilité personnelle sur laquelle j'insiste, ce n'est pas l'individualisme. Au contraire, plus on est proche du Seigneur, plus on va agir comme lui. 1 Jean 3, verset 16 nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Ça ne s'arrête pas là, la phrase. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Donc j'ai beaucoup parlé de cette responsabilité personnelle, d'une relation avec le Seigneur, car les temps sont mauvais, car les choses s'effondrent. Nous vivons une époque où beaucoup de choses se dégradent, des choses sur lesquelles on pouvait se fonder, eh bien, on ne peut plus s'appuyer dessus. Il faudra s'appuyer sur le Seigneur de plus en plus. Et c'est finalement un challenge, un défi qui nous est lancé à notre époque, qui peut être justement positif. Plus les choses vont mal, plus le Seigneur veut être celui sur qui nous pouvons compter, celui qui ne nous fera jamais défaut. J'étais frappé depuis longtemps par un verset qu'on a dans la liturgie réformée pour les enterrements, dans Ésaïe 54, et qu'on devrait aussi se rappeler dans la vie normale. Ésaïe 54, le verset 10, une parole qui s'adresse à Israël. Dieu dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Alors, est-ce que Dieu exagère là? Vous croyez que Dieu exagère quand il nous parle? Nous, on peut penser, la parole est exagérée, mais ça n'enlève rien à la vérité de la parole de Dieu, ce que nous pensons, nous. Donc le monde peut s'effondrer, les collines peuvent chanceler, on peut vivre en plein milieu d'un tremblement de terre et voir des montagnes qui s'effondrent et être encore sur un terrain solide, celui de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu pour nous. C'est plus fort que toutes les forces de la nature. C'est ça que Dieu dit ici à Israël. Voilà pourquoi c'est important de connaître notre Seigneur, de connaître celui qui nous aime, de le connaître jour après jour, de marcher jour après jour en s'appuyant sur son amour. Le Seigneur est le premier à vouloir cette relation. Ne pensons pas que nous devons faire beaucoup d'efforts pour le rencontrer. Vous savez que après la faute de Adam et Ève, qui a cherché la relation entre l'être humain et Dieu? Qui a été le premier à chercher la relation? Tout de suite, c'est Dieu. Il est venu le soir même, vers la 10e heure, où l'homme a fauté, il est venu vers l'être humain et lui a demandé, il a posé cette question. C'est dans Genèse 3, Verset 10.
Où es-tu?
Peut-être on peut s'arrêter chaque jour pour se dire, peut-être Dieu me demande aujourd'hui, maintenant, en cette heure,
où es-tu?
Pas maintenant seulement ce dimanche, mais chaque jour de la semaine.
Où es-tu?
Dieu vient, il sait très bien que l'homme et la femme se cachent dans des arbres, parmi les arbres, parce que c'était là qu'ils pouvaient le mieux se cacher. Aujourd'hui, on se cacherait peut-être dans Internet, dans les jeux, dans les distractions,
ou dans le travail,
justement pour éviter d'entendre Dieu qui veut le dialogue.
Où es-tu?
Vous n'avez pas obligé de poser cette question. Ils pouvaient aller les trouver là où ils étaient, derrière l'arbre où ils étaient, puis leur dire immédiatement la sentence.
Non, c'est pas comme ça que Dieu entre en relation.
C'est une discussion qu'il veut avec l'être humain. Et cette question nous poursuit encore aujourd'hui. Quand on voit ce que l'être humain est capable de faire à d'autres êtres humains, on se demande, qu'est-ce que l'homme? Et on entend derrière cette question, oui, Dieu nous demande, où es-tu? Et l'homme n'a jamais pu répondre à cette question, parce qu'il était, dans une situation où il ne pouvait plus rejoindre Dieu. Il n'avait même, et non seulement on ne peut même plus le rejoindre, mais on ne peut même plus savoir qu'il existe. Certains pensent même qu'il n'existe pas. Jusqu'à ce qu'un jour, cette question n'a jamais eu de réponse. Jusqu'à ce qu'un jour, Jean-Baptiste, c'est de lui dont on parle pendant la période de l'Avent, Jean-Baptiste dit à deux de ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Et après ils suivent Jésus, et Jésus leur demande, que cherchez-vous? Et eux, ils disent à Jésus une question. C'est dans Jean 1, verset 39. Rabbi, où demeures-tu? Venez et voyez, leur dit-il. Et le texte se termine presque tout de suite en nous disant, ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, l'heure où Adam et Ève ont fauté. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils ont vu où Jésus demeure? Est-ce que chacun de nous peut dire, moi j'ai vu où Jésus demeure? Eh bien, on nous dit dans ce texte, ces deux-là, ces deux disciples, ils ont vu où ils demeuraient, où Jésus demeurait. Ils l'ont vu là où Jésus demeurait. Bon, j'aimerais bien savoir la suite. Vous ne voulez pas, vous, savoir un peu? Mais c'est rien, c'est pas marqué. Voilà, c'est pas marqué. Voilà. Eh bien, alors dans nos cœurs, c'est une parole. Eh bien, écoutez, c'est marqué tout le long après, dans l'évangile. C'est pour ça qu'il y a un évangile qui est écrit. De chapitre 1 jusqu'au chapitre 21 de Jean, on nous dit où demeure Jésus. On nous le fait voir. Ouvrons les yeux. Quand le texte nous dit que, dans le texte, Jésus dit, dans Jean 14, verset 10, il dit à Philippe, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père ?» Regardez les miracles que fait Jésus. Vous croyez qu'un homme peut faire ça? Ressusciter un mort qui était en décomposition déjà? Ben, il l'a fait.
Donc, il demeure dans le Père. Et le Père demeure en lui. C'est ça qu'il nous demande de reconnaître. Et puis, il va même plus loin. Dans Jean 15, verset 4, il dit « Demeurez en moi. » Et moi, en vous, ce que disait Jocelyne, oui, en nous, dans nos cœurs. C'est là où ça demeure. À nous de choisir de demeurer. C'est ce qu'il nous dit là. Amen.